Bonjour à tous, bienvenue à l'EPI. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on va élever le nom de Jésus tous ensemble. Est-ce qu'il y a une église qui est désireuse de louer, d'acclamer son Dieu, de l'adorer? Je crois vraiment que ce matin, le Seigneur veut nous parler à chacun. Je crois que le Seigneur veut nous bénir encore, veut nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je vous propose qu'on va se lever et on va louer notre Dieu tous ensemble. Avec ce chant qui dit « Oui, nous t'attendons ».
Attendons, vois nos mains et
Nous sommes là pour te contempler. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour élever ton nom, Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour déclarer que tu es saint. Tu es saint, Jésus. Tu es trois fois saint, Jésus.
Tu es saint, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
Par ta grâce.
soumettre une pensée à l'église. Il y a des personnes dans cette salle qui portent des fardeaux très 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 lourds, des fardeaux qui les empêchent d'avancer, des fardeaux qui les empêchent même de respirer. Et ce matin, Jésus te dit, ce fardeau, tu peux me le donner. Ce fardeau, tu peux le déposer à mes pieds. Ce fardeau, tu peux me l'abandonner. Je crois qu'il y a vraiment cet appel ce matin. Dieu te dit, abandonne, abandonne-toi à moi. Je prendrai soin de toi. Je vois ce fardeau et moi seul peux le porter pour toi. On va reprendre ensemble. Je m'abandonne.
Corinthiens 11 à 27, 29 dit « C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. » Qu'est-ce que ce texte nous dit ? On pourrait se dire, punaise, ça condamne ce matin. Non, pas du tout. Si tu reconnais que Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nos péchés, que son corps est représenté par ce pain, que son sang par ce vin, si tu crois qu'il est mort pour toi, alors prends ces symboles, prends-les en examinant ton cœur, en reconnaissant que tu es pécheur, mais en reconnaissant que Jésus à la croix a payé pour toi. C'est ce qu'il dit ce texte. D'avoir la conscience de notre péché ne doit pas nous freiner, mais au contraire de dire, Seigneur, je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. Je reconnais que j'ai péché, peut-être ce matin même. Je reconnais que je suis imparfait, mais je reconnais aussi que Jésus... Tu as payé le prix pour moi. Alors si tu crois, si tu as été baptisé, lève-toi, prends ce pain, prends ce vin. Va avant, si tu veux, demander pardon à frère, une sœur, ou demande pardon simplement à Dieu. Mais prends-le honnêtement, prends-le sincèrement, devant Dieu, qui t'a pardonné, qui te pardonne. Seigneur, c'est vraiment bien humblement, je suis tellement reconnaissante. Père, il n'y a pas de mots pour exprimer ce cadeau. Tellement il est immense, tellement il est puissant. Seigneur, tu n'as pas voulu qu'on soit séparés de toi et tu as donné ton Fils unique à la croix pour effacer tout ce qu'on a fait de mal, Seigneur. Et je veux vraiment ce matin qu'on puisse prendre, Seigneur mon Dieu, ces symboles en reconnaissant, en réalisant, Père, qu'on ne mérite pas, Seigneur, mais que tu as tout payé à la croix. Tu as tout payé à la croix, tu as tout accompli par amour pour moi. Vraiment, pendant encore ce chant, je m'abandonne. On va prendre ces symboles qui nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
On va déclarer que Jésus est ressuscité, qu'il est victorieux, qu'il a vaincu la mort. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé.
chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons alléluia, chantons alléluia, chantons alléluia, l'agneau a triomphé.
Une dernière fois, chantons.
Chantons.
Soumettre à l'Église une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que nous sommes une Église, comme d'autres d'ailleurs, qui pensons que Dieu parle aujourd'hui tant par sa parole que aussi par les hommes et les femmes que nous sommes. Voici la pensée du Seigneur, me semble-t-il. Tu dis à Dieu, Seigneur, je marche vers cet horizon que tu m'as indiqué. Et plus j'avance et plus cet horizon recule. Alors tu t'interroges en te demandant si tu as bien reçu la bonne indication de la part du Seigneur. De temps en temps même, tu commencerais à être un peu fâché après le Seigneur en te disant quand même, Seigneur, tu exagères. J'ai fait beaucoup de choses quand même pour te servir et j'avance et je ne vois rien venir. Alors le Seigneur veut te dire, et j'ai l'impression qu'il te le dit comme avec un grand sourire en te disant... Allez, mon fils, ma fille, écoute un peu aussi ce que je te dis vraiment. Je ne t'ai pas dit que cet objectif n'était pas le bon. Continue à avancer, tu as raison. C'est le bon sens, la bonne direction. Et je ne suis pas ingrat et je vois ce que tu fais. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore tout à fait comprise. C'est qu'en fait, ce n'est pas tant le but à atteindre qui est important, mais c'est aussi le chemin et la manière d'atteindre ce but. Or, actuellement, tu marches, tu avances, et en fait, tu ne regardes qu'à toi-même. Or, au fur et à mesure que tu marches, il y a de droite et de gauche des situations, des personnes auprès desquelles tu pourrais intervenir. En fait, tu passes à côté de l'essentiel actuellement. Ton cœur est refermé sur lui-même. Ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est la réalité. Alors, le Seigneur te dit, mais... Regarde, parce que chaque jour, je place sur ton chemin des opportunités de me servir en servant les autres, en intervenant auprès des autres, en rendant service. Et tu vas voir qu'à travers de ces situations, tu vas découvrir de nouvelles choses sur moi, dit le Seigneur, et comme des indices qui vont t'indiquer encore le meilleur chemin à suivre. Alors oui, continue à marcher, tu ne t'es pas trompé. Mais regarde ce qu'il y a à faire chaque jour.
Et le Seigneur est fidèle et nous parle encore ce matin. C'est pas merveilleux ça?
Si vous le voulez bien, je vais prier pour ces personnes. C'est vrai que des fois, c'est tellement facile. Hop, mon nombril, il est là. Et parfois, c'est difficile de relever la tête et regarder autour de soi. Et sans aucun jugement, parce que j'ai été comme ça. Mais vraiment que, ouais, cette parole, elle ne parte pas comme ça dans les airs. Mais qu'elle puisse nous aider à avancer, à être boostée. Seigneur Père, je viens vers toi, Seigneur mon Dieu Père. Simplement et vraiment te dire, ben, ouais, aide-nous à veiller les uns sur les autres. Parce que c'est vrai que c'est en servant les autres, Seigneur, que tu nous fais grandir. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que c'est en servant les autres que tu nous valorises encore plus, que tu nous rends meilleurs. Aide-nous à avoir cette main tendue. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles aux personnes qui ont besoin, Seigneur. Aide-nous, Père, je t'en prie. Aide-nous à être comme toi, qui n'a pas regardé à lui-même, mais qui a regardé autour de soi. Seigneur, vraiment, je te prie afin de nous aider, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aurais continué pendant des heures et des heures, pas vous? Mais il y a un message super qui arrive. Et avant ce message, il y a quelques petites annonces. Donc, je vais vous partager. On vit des moments forts le dimanche matin, c'est génial. Mais la vie d'église, c'est tout le temps, toute la semaine. Alors, si vous désirez intégrer un groupe, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la semaine, si vous voulez d'autres renseignements, je vous invite à aller vers le point accueil et à... ben, vous renseigner sur tout ce qui peut se passer pour les grands, les petits, les jeunes depuis plus longtemps. Amen. Est-ce qu'il y a des jeunes depuis plus longtemps là? Depuis très très longtemps. Il y en a, j'en suis sûre. Et bien sûr, vous annoncez que la semaine prochaine, nous avons notre jeûne et prière. C'est génial. On va passer du temps ensemble, bénis. Et donc, on vous invite à venir tous les soirs à partir de 19h30. Ce sera de 19h30 à 21h, on aura notre temps de jeûne et prière. Et cette semaine, elle va se poursuivre par une soirée de louanges le samedi soir. Et on va voir les écluses des cieux s'ouvrir, la présence de Dieu, on va être rempli. Alors si vous voulez vraiment être rempli et si vous voulez en profiter et vraiment vivre, être boosté, ben venez. Vous avez le choix, soit venir, soit venir. Voilà pour les annonces de cette semaine. Alors, il y a quelque temps une vente de fromage. Donc tous les gourmands de fromage qui ont commandé des fromages, la distribution se fera après la célébration et tous les bénéfices sont pour les ados, pour les aider. C'est dimanche prochain? D'accord, pardon, excusez-moi, c'est dimanche prochain, petite erreur de ma part. Dimanche prochain, vous allez récupérer vos fromages. Donc tous les bénéfices sont pour les ados, pour tout ce qui vivent, que ce soit pour des camps à Cap, des camps éco où les ados se rassemblent. Ils se sont rassemblés d'ailleurs, je crois, le week-end dernier et je pense que ça s'est super bien passé. J'ai eu des retours vraiment génial. Dommage, j'y étais pas, mais j'en suis sûre que eux, ils ont été bénis. Et une dernière petite annonce à ne pas oublier. Vous savez que maintenant, depuis quelques temps, depuis quelques dimanches, après la célébration, à côté du piano, il y a un point écoute et prière. Si le message a percuté vos cœurs, si cette semaine vous avez vécu quelque chose de difficile, si vous avez quelque chose qui vous travaille, eh bien, venez. Il y aura des personnes qui seront là pour vous écouter et pour prier avec vous. N'hésitez pas. Maintenant, on va laisser la place à Raymond Pierre.
Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges pour ce matin? Et puis, vous pouvez vous remercier aussi parce qu'on a tous été une grande chorale ensemble qui ont élevé le nom de Jésus dans ce lieu. Amen. Ce matin, on va aborder la louange et la prophétie en église ou la louange et la prophétie à l'épi. On poursuit notre thématique sur vivre les dons spirituels aujourd'hui, thème traité par Paul dans les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens. Alors jusqu'à aujourd'hui, on a vu avec quel état d'esprit les croyants étaient appelés à vivre les dons, avec une mentalité de grâce, avec une ouverture d'esprit, avec une interdépendance vis-à-vis des frères et sœurs. Ensuite, Jérôme nous a expliqué ce qu'étaient les dons spirituels, leurs fonctions, leurs buts et comment les recevoir. Et la semaine dernière, Anne nous a partagé l'importance d'avoir l'amour comme force motrice pour vivre les dons spirituels. Alors peut-être il y en a qui atterrissent ce matin, qui n'ont pas suivi toute la thématique, qui disent « Oh là, de quoi il parle ?» Je vous invite à aller sur notre page YouTube, vous pouvez réécouter l'intégralité de la série et être encouragé avec. Aujourd'hui, on va regarder les recommandations que l'apôtre Paul nous donne sur l'exercice des dons lorsque nous sommes rassemblés, comme ce matin, lorsque nous sommes en église. Et il traite de cette question dans tout le chapitre 14 de sa lettre. Alors, Anne, la semaine dernière, nous a rappelé que les Corinthiens ne manquaient d'aucun don. Ils vivaient la puissance, ils vivaient les miracles, ils vivaient les paroles. Wow, quelle église merveilleuse! Quelle église parfaite! Eh bien non! Eh bien non! Et c'est tout l'enjeu de la lettre de Paul aux Corinthiens. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, Paul va adresser cinq problèmes majeurs qui étaient vécus dans cette église. Il y avait d'abord des divisions, vous savez, il y avait une concurrence. Certains préféraient Pierre, d'autres préféraient Paul, d'autres préféraient Jésus. Il y avait une concurrence qui était là et qui s'installait. Il y avait des divisions dans l'église. Ensuite, dans cette église, on vivait les relations sexuelles hors mariage. Bien pire, de l'inceste était vécu au milieu de l'église. Ensuite, il y avait des différences, des débats sur savoir ce qu'on avait le droit de manger ou pas. Et puis finalement, il y avait des erreurs doctrinales sur le sujet de la résurrection de Jésus et même la résurrection des croyants. Et donc, pour rappel, c'est Paul qui a implanté cette église lors d'un voyage missionnaire. Pendant un an et demi, il a cheminé au milieu des Corinthiens. Il a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Une église s'est construite et puis Paul a continué son rôle d'apôtre d'aller apporter l'évangile dans d'autres villes. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit une lettre de l'église de Corinthe qui énumère tous ces problèmes. Et c'est dans ce cadre que Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens. Et ce matin, on va fixer sur un des problèmes majeurs que Paul traite. C'est celui de l'exercice des dons spirituels au sein de l'Église. Voilà pourquoi il va débuter la section dans 1 Corinthiens 12 que Matthieu nous a prêché en disant « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Autrement dit, il est en train de dire « Par rapport à la question que vous m'avez posée sur les dons, voici ma réponse. Voici ce que je veux vous communiquer. » Il y avait chez les Corinthiens un désir de briller. Un désir d'être puissant. Et il y avait une croyance chez eux que pratiquer les dons spirituels, notamment le parler en langue, faisait de nous de meilleurs chrétiens, des chrétiens plus spirituels que les autres. Et à cause de ça, tout le monde commençait à parler en langue dans tous les sens, tout le monde élevait la voix, on se coupait, on prophétisait. Bref, c'était la foire. Toute ressemblance avec une famille d'église particulière, mettant le parler en langue en avant, est fortuite et indépendante de ma volonté ce matin. Le théologien Sam Storms, qui est un charismatique, comme Anita nous l'a rappelé, qui croit que Jésus équipe son Église de ses dons spirituels, va dire la chose suivante. Une grande partie du chapitre 14 est consacrée à leur reprocher de désirer et d'élever les dons inférieurs, principalement le don des langues. Ils privilégiaient les langues par rapport à tous les autres dons, comme s'ils voulaient suggérer que les langues étaient une marque unique d'une spiritualité et d'une piété accrue. Donc, il pensait qu'il y avait une spiritualité supérieure en exerçant le don des langues. Je crois que ce message, il a toute son importance pour nous ce matin, Église de l'Épi. Vous n'êtes pas censé sans ignorer que l'Église de l'Épi est une église pentecôtiste. On est issu d'un réveil qui a pris place dans les années 1900 aux États-Unis, le réveil de Azusa Street, où nos pères ont redécouvert dans la Bible le fait que Dieu voulait remplir de son esprit les disciples de Jésus et les équiper des dons en vue de la mission, de leur donner une force pour être des témoins au sein de leur génération. C'est ça le point qui est là. Nous sommes une église qui croyons que Dieu équipe, communique des paroles aux croyants. Le problème, c'est que dans nos milieux pentecôtistes, il y a une grosse emphase qui a été mise sur le parler en langue, sur cette recherche. Et bien souvent, on vivait des rassemblements où tout le monde priait en langue en même temps. Oh, c'est le feu ce matin. Alors je pense qu'à l'EPI, il y en a, ils disent « Ok, mais j'ai l'impression que notre pratique des langues, elle est plutôt sobre ici, dans l'Église. » Et alors il y a trois camps ce matin. Il y a peut-être des nouveaux qui sont là au milieu de nous ou qui viennent d'arrière-plan évangélique plus classique, qui disent bah, « C'est vrai que l'autre jour, dans la louange et dans la prière, à un moment, j'ai entendu quelqu'un marmonner quelque chose de bizarre. J'ai pas trop compris ce qu'il était en train de faire. » Peut-être ça vous a intrigué, peut-être ça vous a interpellé, ou peut-être oh, c'est comme ça, ça passe. Pour d'autres, vous êtes issus des églises pentecôtistes classiques ou même des charismatiques plus-plus. Alors quand je parle de charismatiques plus-plus, c'est des pentecôtistes sous testostérone. Et là, c'est chaud. Et vous êtes là, ils disent, mais quand je viens à l'EPI, franchement, j'ai l'impression qu'on manque de ferveur par rapport aux dons quand même, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Et puis, il y a une troisième catégorie. Des gens qui sont issus d'églises charismatiques et pentecôtistes, qui ont été abusés parce que des gens ont utilisé les dons spirituels pour les manipuler. Et vous n'avez plus envie d'entendre parler, de parler en langue, d'interprétation des langues, de prophétie, parce que vous avez été déçus. Ce matin, il est important pour nous de nous pencher sur ce que la Bible enseigne sur ce sujet pour pouvoir vivre une vie charismatique voulue par Dieu. Vous savez, on croit à l'EPI que la pratique doit découler d'une bonne théologie. Si on a une bonne compréhension des Écritures, alors notre pratique va agir en conséquence. Et pour nous, c'est important. C'est important. Le but de ce message ce matin, c'est de voir ce que Jésus veut nous enseigner en tant qu'Église, en tant que communauté, pour pratiquer les dons spirituels. Paul va commencer par inviter l'Église de Corinthe en Romains 14, verset 1, et il va dire « Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Il rappelle le cadre dans lequel les dons doivent être exercés. La priorité n'est pas nous-mêmes, mais les autres. Le bien-être spirituel de ceux qui nous entourent lorsqu'on est rassemblés en Église. Il ne s'agit pas de se servir des gens, mais de servir les gens. C'est pour ça qu'on est appelé à exercer les dons spirituels. Il s'agit de rechercher le bien de l'autre avant le sien. Les dons, mes amis, ne sont pas là pour obtenir une promotion spirituelle du ciel, mais pour la construction de la maison et du royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut équiper l'Église de ses dons. On l'a vu en introduction, les Corinthiens cherchaient à se glorifier de leurs dons, et il y a la pagaille qui régnait au sein de l'Église lors des rassemblements. Alors probablement qu'ils utilisaient les dons pour se faire mousser, pour montrer combien ils étaient plus spirituels que les autres. Peut-être qu'ils utilisaient aussi les dons, vous savez, pour régler des comptes par prophétie interposée. On n'a jamais vu ça dans nos églises. Hein. Alors vous savez, moi je suis ancien policier. J'aime l'ordre et la paix. Et si moi, j'avais été pasteur de l'église de Corinthe, j'aurais dit on va mettre un holà à tout ça. Seuls les pasteurs et les responsables prendront la parole, les autres restez assis et soyez bien gentils. Mais heureusement, Dieu n'a pas choisi Raymond Pierre pour être le pasteur de l'église de Corinthe. Et il a appelé l'apôtre Paul. Il a appelé l'apôtre Paul à implanter cette église. Et ce qu'on voit, c'est que Paul encourage des gens qui sont déjà excités à rechercher les dons spirituels. C'est étrange. Sam Storm dira encore, l'exhortation de Paul suggère que la réponse à nos problèmes n'est jamais la suppression du zèle spirituel ou des lois qui interdisent l'exercice des dons légitimes de l'esprit. La solution à l'abus des dons spirituels n'est pas la désuétude, mais le bon usage. Paul n'a pas recommandé aux Corinthiens d'abandonner les dons spirituels ou de ne pas mettre l'accent sur le pouvoir spirituel. Il leur a simplement donné des directives sur la manière dont ces puissantes manifestations de l'esprit devaient être correctement exercées dans le corps de Christ pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Il n'empêche pas, il accompagne. Il n'empêche pas, il encadre. C'est le but de Paul. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment avoir une cheminée l'hiver dans la maison? Ah, j'entends des « ah oui ». Oh là là, vous savez, c'est mon rêve. Tous les ans, je dis à ma femme vivement que je sois propriétaire et que j'ai mon insert. J'aimerais tellement me poser un dimanche après-midi, après une célébration où on a vécu des choses avec Dieu, avec mon chocolat chaud, mon plaid, le feu et un bon bouquin. Un bon bouquin qui va me nourrir et qui va me faire grandir. On est tous d'accord ici qu'on veut tous un bon feu pour nous réchauffer. Mais ce feu-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on le veut à l'intérieur de la cheminée et pas dans la maison. Sinon, ça veut dire que notre maison, elle est en train de brûler. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Il veut accompagner la vie de l'esprit pour que cette vie de l'esprit réchauffe, transforme, bouleverse des cœurs. et non détruise des gens ou les fasse fuir. C'est l'objectif de Paul dans ce passage. Il va fixer ce cadre. Et on va commencer ce matin par le rôle des langues. Et mon premier point, c'est que les langues contribuent à nous construire personnellement. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit en effet, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit, qu'il dit des paroles mystérieuses. » Et au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Paul commence par expliquer le rôle du parler en langue. C'est celui de communiquer avec Dieu en vue de notre construction personnelle. Alors si l'expérience de la Pentecôte qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2 nous parle de langue humaine qui était compréhensible par tous les gens qui étaient venus adorer à Jérusalem, de tous les peuples et de toutes les nations, on voit ici dans notre passage que Paul ne parle pas du tout de cette langue-là, puisqu'il dit que personne ne comprend cette langue, si ce n'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui les comprend. Il ne s'agit pas ici de langue humaine puisque le texte ne dit que personne, donc personne ça veut dire personne, on est d'accord ? Personne ne peut les comprendre. Vous savez, le but du langage, c'est de pouvoir communiquer. Ici, qu'on parle en français, en arménien ou en alsacien, le but, c'est qu'une personne parle avec une autre et que la personne la comprenne. Et dans ce passage-là, Paul est en train de dire, on est en train de parler avec Dieu. Sam Storms dira encore les langues que Paul avait à l'esprit dans 1 Corinthiens 12, 14. Et il va dire les langues dans lesquelles je parle et je prie régulièrement aujourd'hui sont un langage céleste, un langage qui dérive de la capacité surnaturelle de l'Esprit-Saint. Et cette pensée-là, elle est confirmée par Paul lorsqu'il va poursuivre en parlant des langues, en soulignant l'importance qu'elles doivent être interprétées. On voit ça au verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église reçoive une édification. On voit que Paul explique que lorsque nous sommes en Église, les langues doivent être interprétées. Et là, c'est intéressant de revenir à la définition des dons spirituels que Jérôme nous a communiqué. Les dons spirituels ne sont pas une capacité acquise ou apprise, mais elles sont une activité de l'esprit spontanée qui revêt des croyants à un moment donné. Alors si les langues évoquées ici étaient des langues humaines, mes amis, pour l'interpréter, il n'y aurait pas besoin d'être chrétien. Si quelqu'un maîtrise la langue, il est capable de dire « voilà ce que Dieu a dit ». Or, Paul dit que ça prend un don d'interprétation pour pouvoir le faire, c'est-à-dire une activité de l'esprit. On voit dans les Actes des Apôtres, ils ne parlaient pas ces langues-là, ça leur est tombé dessus et ils ont communiqué dans des langues claires une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Donc ça prend un don pour interpréter ça. Ensuite, quand on parle des langues exercées en privé, elles sont là pour notre édification personnelle. C'est intéressant parce que dans ce passage, on retrouve 7 fois l'expression « oikodomeo » qui parle de construire. Vous savez, quand la Bible, dans un seul chapitre, répète 7 fois la même chose, c'est peut-être qu'il y a une priorité sur laquelle il faut aller mettre l'emphase. Le but pour Paul des dons, c'est d'aller construire quelque chose dans la vie des gens. Alors vous allez me dire ce matin, ok, tu es en train de nous dire qu'on parle une langue qu'on ne comprend pas. Comment une langue que je ne comprends pas est censée me construire ? Paul apporte la réponse, verset 14. « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. » On est en prière, on est en connexion avec Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai remarqué dans ma vie personnelle que lorsqu'il faut que je prenne mes temps de prière avec Dieu, parfois je ne sais pas trop par où commencer à prier. Et ce que j'ai expérimenté, c'est que lorsque je commence à prier en langue, que je suis dans mes temps de louange et je commence à louer personnellement Dieu, je commence à prier en langue, et là, il y a des situations, des personnes, des objets qui viennent à mon esprit pour des situations particulières. Et ça commence à orienter mes prières. Au début, je ne sais pas quoi prier, puis là, tout d'un coup, je pense à une telle personne, à telle situation, et ça commence à conduire mon temps de prière. Parfois aussi, ce qui se passe, c'est que Dieu va me mettre à cœur une personne et puis je vais sentir qu'il faut que je l'appelle. Combien de fois j'ai expérimenté que le fait que au moment où j'appelle la personne, elle est en train de passer par une situation où elle avait besoin d'être encouragée. Dieu veut se servir de vous, mes amis. Et il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on pratique le parler en langue privée. Paul ajoutera qu'il aspire, qu'il prie en langue plus que tous les autres et qu'il désire que les Corinthiens puissent vivre ce don. Mais est-ce qu'il croyait que tous le pratiquaient forcément ? La réponse, elle est non. On le voit dans 1 Corinthiens 12, il dit « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous parlent-ils en langue ? » Et il sous-entend non derrière, puisqu'en fait, il rappelle que le Saint-Esprit donne à chacun comme il le veut. Paul nous invite à aspirer. Mes amis, je crois qu'il y a une force qui se dégage dans la prière en langue. Mais il ne nous invite pas à nous rendre malades pour ça. Combien de gens j'ai vu qui faisaient des blocages parce qu'on voulait absolument qu'ils prient en langue et ça faisait comme un blocage et puis ça venait jamais. Puis bizarrement, quand on les a détendus un peu et qu'on les a juste invités à chercher à être remplis de l'Esprit, c'est venu. Pourquoi ? Parce qu'on a mis une emphase sur les langues plutôt que sur être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à l'EPI, nous croyons que les langues sont un signe qui rend évident que la personne vit ce remplissage de Dieu, mais on ne l'enferme pas les gens là-dedans. Parce que l'histoire nous montre que dans les réveils où les gens ne pratiquaient pas le parler en langue, ils priaient pour les malades étaient guéris. Le don de guérison se manifestait. Il y a tellement d'endroits qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'on prie beaucoup en langue, mais qu'on ne voit pas beaucoup de guérison. Donc, il n'y a pas forcément de lien entre l'un et l'autre. Par contre, ce qu'on voyait, c'est que ces gens cherchaient Dieu, cherchaient à être remplis de Dieu. Et Dieu communique ses dons. Le tort, de nos milieux pentecôtistes, c'est d'avoir, et sans forcément le vouloir, créer une espèce de distinction entre des chrétiens qui seraient remplis du Saint-Esprit et puis les autres. Le théologien charismatique, lui encore, qui croit aux dons spirituels, Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, que vous pouvez retrouver à la librairie, d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les autres ouvrages qu'on a utilisés pour cette série. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous encourage, il reste peut-être un ou deux ouvrages de Sam Storms sur comprendre les dons spirituels. Si vous aimez l'anglais et que vous avez soif de découvrir plus, vous pouvez vous le procurer à la librairie. Mais Wayne Grudem va dire la chose suivante. Bien que les tenants de la doctrine pentecôtiste du baptême dans l'esprit nient toute tentative de classer les chrétiens en deux catégories, cette division, elle est implicite à chaque fois qu'ils demandent si une personne a été baptisée du Saint-Esprit ou non. Une telle question laisse clairement entendre qu'il existe deux groupes de chrétiens pour eux, ceux qui ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et les autres. Et le problème de cette pensée, c'est que ça risque de créer une mentalité. Il y a nous, les super spirituels, et puis il y a les autres. Et ça, parfois, ça peut engendrer de la jalousie, de l'orgueil et de l'esprit de compétition, voire de division. La vérité est que concernant la vie de l'esprit, nous sommes tous invités par Paul à aspirer à la croissance. Voilà pourquoi le Nouveau Testament va parler aussi des disciples de Jésus qui ont reçu le Saint-Esprit à leur conversion. Il va les inviter, et on voit ça dans Éphésiens 5, 18, « Laissez-vous constamment remplir par l'esprit ». Laissez-vous constamment. Cette expérience renouvelée, c'est celle aussi des apôtres. On voit dans Actes 2 qu'ils expérimentent cet empowerment, comme on dit en anglais, ce remplissage de l'esprit. Et dans les chapitres qui suivent, ces mêmes disciples sont à nouveau remplis et remplis et remplis et remplis. On a besoin, mes amis, d'être constamment remplis du Saint-Esprit, de rechercher à être remplis. Vous ne serez jamais assez remplis du Saint-Esprit. On a besoin, face aux situations, aux vies nouvelles, aux choses qui se dressent devant nous, d'être constamment à rechercher Dieu pour avoir sa pensée, pour avoir son cœur, pour vivre ses dons, pour bénir les gens qui nous entourent. Quelqu'un devrait dire Amen. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et je le répète, le but n'est pas notre autopromotion, mais d'accomplir la mission. C'est pour ça que Dieu nous donne ses dons. Et c'est dans ce cadre que Paul va poursuivre et insister sur la prééminence de la prophétie. Ensuite, le deuxième point ce matin, c'est l'exercice des langues en Église. On continue la lecture au verset 6 à 9. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement ? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites ? En effet, vous parlerez en l'air. Paul rappelle que le don des langues est intelligible pour celles et ceux qui sont autour. Il a besoin d'être intelligible et n'a aucune utilité pour les gens parce qu'ils ne le comprennent pas, s'il n'est pas interprété. Et il va comparer ça à des instruments de musique. Et dans la musique, il faut que les notes soient justes et qu'elles soient en harmonie avec les autres instruments. J'aimerais qu'on regarde juste, parce que ça va communiquer un message, j'aimerais qu'on regarde juste une petite vidéo de 30 secondes ensemble pour illustrer ce point. est d'accord qu'il n'y a pas d'harmonie là. Les notes sont fausses, il n'y a pas d'harmonie. Et normalement, cette musique-là, c'est pour avoir un petit date avec son épouse, pour pouvoir faire une petite danse, etc. Mais là, en vrai, ça nous pousse juste à nous boucher les oreilles et à nous barrer en courant. Voilà ce que ça fait lorsque le son est inintelligible. Ça ne communique pas le message que c'était censé faire. Et voilà ce qui se passe. Il doit y avoir un but et un objectif à notre communication. Sinon, c'est des paroles en l'air. Voilà pourquoi Paul va encourager les Corinthiens à rechercher le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. À la différence du parler en langue privée, on peut être poussé en public, des fois conduit par Dieu à communiquer un don des langues. Et je sais que moi, dans mon expérience, souvent, quand j'ai été poussé à avoir un don des langues, alors que je le donnais, j'étais en prière en même temps pour recevoir la pensée. Et c'est intéressant parce que Paul dit « rechercher la pensée pour communiquer le don des langues ». Alors bien sûr, ça n'interdit pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'interprète, mais Paul dit « recherchez vous-même ». Parce que plus loin, il dira « si le don n'est pas interprété, qu'on se taise dans l'église. Mais comment je dois me taire si je ne sais pas si mon don va être interprété ?» Voilà pourquoi Paul dit « recherchez l'interprétation », même si Dieu est capable de le faire par la bouche de quelqu'un d'autre. Et on l'a déjà expérimenté. Mais en tout cas, il y a ce désir, ce besoin en tout cas, par Dieu, que l'interprétation soit communiquée, parce que Dieu veut communiquer quelque chose à quelqu'un. Il va poursuivre au verset 19 en disant « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres. » On est toujours dans ce mot « construction »,« instruire »,« édifier », plutôt que 10 000 paroles en langue. Le souci de Paul est qu'au sein de l'Église, lorsqu'elle est réunie, son désir se porte sur le service des autres, et non sur ses intérêts personnels. Il désire que celles et ceux qui l'entourent découvrent Christ ou alors grandissent encore dans leur marche de la foi plutôt que d'étancher sa soif d'émotion. Ce souci de l'autre, il va le développer dans les versets qui suivent. Versets 20 à 23, « Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes Paul va comparer ce que les langues peuvent produire dans l'Église quand elles ne sont pas interprétées à l'histoire d'Israël, citant le prophète Ésaïe. Ésaïe 28, 11 qui nous parle justement du peuple d'Israël. On sait qu'à cette époque, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Il s'était approché du dieu Baal. Ils étaient tombés dans l'orgueil. Ils se vivaient toutes sortes d'injustices au sein du peuple. Les pauvres étaient méprisés. Si on était riche et qu'on avait de l'argent, on arrivait à s'en sortir au tribunal. C'était de la magouille pour le peuple. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des prophètes. Un prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole, quelqu'un qui parle de la part d'eux, qui communique quelque chose pour Dieu. Il a envoyé des prophètes, mais ils n'ont pas écouté les prophètes. Alors, Dieu envoie l'Assyrie pour exterminer le peuple, pour les emmener en captivité, pour exercer un jugement contre eux au travers de cette parole. C'est ce qui a pris place en 722 avant Jésus-Christ. Mais malgré cela, le peuple, et Paul le dit, n'a pas écouté. Alfred Kuhn, le théologien alsacien, a dit la chose suivante. Paul veut dire aux Corinthiens qu'en parlant aux non-croyants dans un langage incompréhensible, il leur donne à penser qu'ils sont étrangers pour Dieu, en dehors de son plan, que ce n'est pas pour eux, que Dieu les rejette, comme il a rejeté les Juifs du temps de l'invasion assyrienne. On voit ici que la langue était un signe d'exclusion, un signe de rejet. Qui a déjà vécu le rejet ici ? Moi, je l'ai déjà vécu. Jeune policier, arrivé de la France de l'intérieur, affecté en Alsace. J'étais en patrouille avec deux collègues qui étaient proches de la retraite, qui me parlaient très bien le français, jusqu'à un moment où ils ont commencé à se mettre à parler tous les deux en alsacien pendant 10 minutes. On s'imagine plein de choses. Ils sont en train de parler de moi, etc. On se sent exclu, on se sent rejeté quand la langue n'est pas comprise. Le souci de Paul était que les rassemblements en Église contribuent à des vies rencontrées, à des vies transformées par l'amour de Jésus. Avec les non-croyants en ligne de mire, nous on se réjouit à l'épi, on le dit souvent, mais chaque dimanche on a 10-15 nouvelles personnes qui débarquent, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils viennent. Et on croit que c'est important qu'ils entendent le message de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Parce que la grâce de Jésus, on en a besoin maintenant quand on se convertit, on en a besoin en cours de route et on en aura besoin jusqu'à la fin de notre vie. Parce que ce n'est pas par nos actes et par nos efforts qu'on est sauvés, c'est par la grâce de Jésus. La grâce, c'est ce cadeau immérité où Jésus est mort sur une croix pour nous pardonner notre faute, pour changer nos vies et pour nous donner accès au ciel. C'est ça la grâce de Jésus. Et le problème des langues à l'état brut, c'est qu'elles contribuent à nous faire juste passer pour des fous. Et on n'atteint pas l'objectif de les rejoindre. Gordon Fee, un célèbre théologien pentecôtiste, dit la chose suivante, « Puisque les langues sont inintelligibles, les non-croyants ne reçoivent aucune révélation de la part de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent être amenés à la foi. Ainsi, par leur réponse à la manifestation de l'œuvre de l'Esprit qu'ils jugent comme étant de la folie, ils se destinent au jugement de Dieu. » J'aimerais vous parler de l'histoire d'un de mes amis pasteurs, Gaëtan Brassard, qui est déjà venu à l'Épi en 2018. Pasteur à l'église Le Portail au Québec. Et il raconte cette expérience qu'il a faite. Il y a une soirée où ils font une grosse soirée vie de l'esprit. Et puis là, il y avait le feu. Là. Ça soufflait, ça pariait en langue, ça prophétisait. Et les gens étaient heureux. Les chrétiens sortent de la salle en disant, « Pasteur Gaëtan, j'ai jamais vécu une soirée comme ça où le Saint-Esprit était aussi présent. » Alors lui, il est encouragé par ce qu'il vient d'entendre. Et puis là, il y a plusieurs nouveaux qui viennent le voir. Et qui lui disent, « Pasteur, après ce que j'ai vu, plus jamais je ne mettrai les pieds dans une église. » Comment le Saint-Esprit qui est censé convaincre de péché, de justice et de jugement met dehors ceux qui ont besoin de l'évangile pour contenter le besoin d'émotion et de sensation des chrétiens? Mes amis, l'onction n'est pas dans les sensations ou les émotions, elle est dans l'édification. Elle est dans l'édification. Troisième point ce matin, c'est que le prophétique révèle Jésus. Versets 24-25, « En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. » Voici ce que produisent les paroles prophétiques. Voici ce que communiquent les paroles de connaissance. Voici ce que communiquent les paroles de sagesse. Pour rappel, une parole de connaissance, ça donne des informations sur Dieu, sur son plan, sa parole, mais aussi sur des choses précises de nos vies qu'il n'y a que nous qui le savons. En gros, ça nous révèle le quoi qu'on vit à l'intérieur. Et puis les paroles de sagesse, ça donne des instructions sur comment agir face à nos situations. En fait, le prophétique, les paroles de connaissance, de sagesse permettent aux gens de réaliser que Dieu existe, que Dieu s'intéresse à eux, que Dieu les connaît, que Dieu connaît leurs défis. Qu'il a l'oreille attentive pour leurs défis et qu'il vient leur parler. Amen. C'est l'objectif du prophétique. Ça contribue à faire des disciples de Jésus. Voilà pourquoi je crois qu'il est important de vivre le prophétique en aimant les gens et en cherchant leurs intérêts à eux. Celui qu'ils puissent rencontrer Jésus, celui qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés et qu'ils puissent être réconciliés avec le ciel. Le prophétique, mes amis, parle aux gens dans leur situation précise et avec un langage qu'ils comprennent. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui croient que Dieu peut parler au travers des Marvel? Les jeunes là, Marvel, dites-moi que vous connaissez s'il vous plaît. Ok. Pour les plus anciens, les Marvel, c'est des super-héros américains en collant moulant qui sauvent les États-Unis à chaque fois qu'on fait appel à eux. Je vais inviter Timothée Schulz, qui est notre directeur communication à l'EPI, qui a eu l'occasion de servir dans un camp de ski au dernier camp des sources, l'hiver dernier, et qui a vécu quelque chose de particulier au travers des dons spirituels. Si tu veux bien nous partager ça, Tim.
Oui. Bonjour à tous. Merci, RP, pour l'invite. Alors, comme a dit RP, il y avait un camp en début d'année, février 2023. Et du coup, il y a Magali Thoman qui m'invite pour renforcer un peu l'équipe. Il y a un grand jeu. Et cette journée-là, c'est vraiment un moment où on prend le temps. Et la journée se termine par un moment de louange avec un moment spirituel un peu plus long. Voilà. Et alors moi, j'y vais. J'ai vraiment besoin de vacances. Je suis un peu à bout. Enfin voilà. Donc j'y vais pour me ressourcer perso et je me dis, ah, c'est trop bien. Je me suis converti dans une colo. Je sais comment c'est spécial pour les ados. Et allez, je file un petit coup de main. Et voilà. Arrive la soirée et je me prépare 10-15 minutes dans ma chambre, donc je commence à prier pour la soirée. Je sens que Dieu veut me dire ouais, juste sois attentif, il peut se passer quelque chose. Voilà. Mais je suis pas en mode juste j'attends quoi. Je suis attentif. Arrive la soirée, soirée louange, et je vois une petite image. Enfin, Dieu me met à cœur une petite image. C'est une petite pousse dans la terre, voilà, comme un bourgeon quoi. Et à ce moment-là, je me dis ah ouais, ça me fait penser à Groot des Marvel. Donc, est-ce que tout le monde connaît Groot ? Non. Alors Groot, comme a dit RP, c'est un personnage et en fait c'est un arbre. Voilà, donc c'est un super héros arbre et en fait dans le premier film où il apparaît, en fait il donne sa vie pour ses amis et on pense qu'il est mort quoi. Donc la fin est super triste et j'ai failli pleurer, je vous avoue. Et en fait à la fin du Marvel, à la vraie fin pour ceux qui connaissent, une fois le générique passé, on voit que un de ses amis a mis Groot, un reste de Groot dans un pot et en fait Groot refleurit. Et du coup, ça me faisait penser à cette pousse qui refleurit. Donc voilà, je sens que Dieu me met ça à cœur et je suis là, ouais, bah, c'est bien, maintenant il faut aller la porter. Quoi. Donc la petite pousse, je me dis, bah, c'est bien, ouais, c'est assez classique, ça risque de parler à quelqu'un. Et par contre, Groot, gars, je pense que tu délires. C'est un peu toi qui as rajouté. Enfin voilà. Et là commence un peu la bataille dans les pensées. Ouais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, Et je me dis, bon, bah. Tant qu'à faire, on va y aller. Et au pire, il y avait Mathieu Thoman, Jérôme Cantelberg. Si jamais je raconte n'importe quoi, bah, ils sauront me dire « Ouais, Tim, t'as abusé, quoi. » Donc voilà. Donc j'y vais et je raconte l'histoire de la petite pousse. Et encore dans ma tête, j'étais là « Ouais, est-ce que vraiment je parle de Groot ?» Et à la fin, j'en parle. J'explique toute l'histoire dont je vous ai parlé. Et voilà. Je repars, je me dis « Bon, la pousse, c'est bien. Groot, on verra. » Dans la suite du camp, j'ai un ado qui vient me voir et qui me dit « Ouais, la pousse, franchement, ça m'a parlé. » Il m'explique un peu sa situation, tout ça, donc je prie avec lui. Et je me dis « Bah voilà, c'est la petite pousse, t'avais raison, le reste, voilà, on verra quoi. » Je te laisse prendre la suite ou...
Ouais, merci Tim. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un autre jeune dans ce camp qui était fan des Héros de la Galaxie, donc le film. Alors, bien sûr, on ne fait pas de pub pour Marvel, les DC Comics, c'est très bien aussi pour les autres. Hein. Il était fan de Marvel et il venait d'accrocher un poster de Groot dans sa chambre. Et quand il est venu dans ce camp, il a dit « Seigneur, j'ai besoin d'un signe que tu m'appelles vraiment à te suivre. J'ai besoin d'un signe que vraiment tu m'appelles à te suivre. » Et lorsqu'il a entendu cette parole, il s'est dit « Mais Jésus s'intéresse à moi. C'est vraiment Jésus qui m'appelle parce qu'il vient prendre quelque chose que personne ne sait si ce n'est moi. » Il a utilisé une image, une parabole populaire de notre 21e siècle pour aller le rejoindre dans son besoin. Dieu parle avec des mots d'aujourd'hui, mes amis. Dieu parle avec des mots aujourd'hui et on aura la chance de baptiser ce jeune au début du mois de février. Il est à l'épi. C'est ce que Dieu fait encore en 2023 et vous avez bien raison d'applaudir Jésus parce que Jésus veut rejoindre les gens là où ils en sont. Il parle avec des images que les gens peuvent comprendre. C'est un Dieu qui désire se révéler, pas un Dieu mystérieux. Un Dieu qui te connaît personnellement et qui veut s'adresser à toi. Les paroles prophétiques, elles en trouvent une porte d'espoir pour les gens face à leur situation et face à leurs défis. Voilà pourquoi Paul dira au verset 3 qu'elles sont là pour édifier, encourager et réconforter. Elles ne sont pas là pour semer la terreur ou la peur des gens pour leur forcer à donner leur vie à Jésus. Mais elles sont là pour les aider, pour les rencontrer, pour qu'ils se sentent aimés, qu'ils sentent que Dieu s'intéresse à eux. Alors oui, des fois Dieu peut dénoncer un danger qui arrive. Mais il y a toujours une porte de sortie qui est proposée. Toujours une porte de sortie. Alors maintenant qu'on en arrive là, mais comment pratiquer les dons en Église ? 1 Corinthiens 14, 26, 33 nous dit « Que faire donc, frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue que deux ou trois en plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète ? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, pour que l'édification et la construction des uns et des autres puissent se faire. Paul leur demande que chacun intervienne à son tour pour prophétiser, pour interpréter, afin que ça puisse être compréhensible. S'il n'y a pas d'interprétation, la personne est invitée à parler à elle-même et à Dieu. Et ça, ça vient nous rassurer en tant que pentecôtistes, parce qu'on va dire, mais purée, si j'ai même plus le droit de parler en langue quand on est dans la louange. Les amis, on est tellement habitué à prier en langue quand on est dans la louange, et c'est tellement une bonne chose, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Dieu vient nous révéler des choses. Et si ce n'est pas appelé à être interprété, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ne va jamais prier en langue de manière à couvrir une prière ou un don qui serait apporté de manière intelligible. Donc on va le faire, comme le texte nous dit, on va parler à nous-mêmes et à Dieu, avec une voix qui ne part pas dans les exaltations, parce que ce qui est important quand on est réunis, c'est qu'il y a une communication de l'esprit pour quelqu'un de manière intelligible. Donc on va le faire de manière à ne pas couvrir une prière, de ne pas couvrir une voix. Alors aussi, afin de s'assurer que la parole prophétique serve à encourager, édifier et consoler, il n'y a plus de micro à l'avant comme il y avait quelques années en arrière, mais on invite les gens simplement à venir nous voir et nous partager en quelques mots ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et on leur permet d'aller donner la parole. Notre but, c'est de vérifier justement qu'on est bien dans l'édification, dans l'encouragement, parce que c'est le critère que Paul nous donne pour apporter un don spirituel. Le texte nous dit aussi que les uns et les autres sont appelés à évaluer le message. Ce qui veut dire que la parole prophétique peut contenir des paroles humaines et des erreurs, comme Timothée l'a dit, mais peut-être je vais me planter, bon ça va, il y a Matthieu et Jérôme qui me corrigeront si je me suis planté. Mais la parole prophétique aujourd'hui peut contenir des erreurs, ou en tout cas une partie de notre pensée. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dépose une pensée, mais en plus on la formule avec notre bouche. Donc on peut y ajouter un petit peu de nous-mêmes à l'intérieur. Voilà pourquoi les pires, on n'encourage pas les « Dieu m'a dit » ou « Ainsi parle l'Éternel ». Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu chez les Corinthiens, on pouvait utiliser des paroles des fois pour manipuler des gens. Mes amis, combien de gens dans nos églises se sont mariés parce que Joséphine a déclaré que Marc et Sophie devaient se marier ? Les gars n'avaient rien du tout l'un pour l'autre, aucune attirance, rien, pas de connexion, mais une prophétie avait été donnée, il faut que je vous marie. Malheureusement, c'est que l'histoire nous a montré le désastre derrière. Mes amis, une parole prophétique, elle est là pour confirmer quelque chose qu'on a déjà dans notre cœur, ou répondre à une interrogation qu'on a, par soit l'affirmative, soit dire « te lance pas là-dedans ». Et c'est toujours quelque chose qu'on a reçu premièrement. Donc attention, « ainsi par l'Éternel et Dieu m'a dit », parce qu'on prend un ascendant psychologique sur la personne. Et c'est pourquoi on encourage, et c'est Anita souvent qui nous montre ce modèle, qui dit « je voudrais vous partager une pensée pour qu'on puisse la peser ». Pour qu'on puisse l'analyser, pour qu'on puisse en tirer du jus s'il y a besoin d'en tirer. On vient avec Dieu avec une attitude d'humilité pour permettre aux gens de s'approprier ou non cette parole qui a été communiquée. Mes amis, trop de gens ont été blessés par des pseudo-prophéties. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais dans nos milieux, il y a eu trop de pseudo-prophéties qui n'en étaient pas, qui n'étaient pas des paroles de Dieu. Alors, faisons attention à la manière dont on va le faire. Je vais inviter l'équipe à s'approcher alors qu'on conclut. Corinthiens 14, 37 nous dit « Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous ai écrit un commandement du Seigneur. » Voilà comment Paul conclut son enseignement sur la pratique des dons en Église. Si tu crois que tu es un prophète ou que tu es conduit par Dieu, tu dois te soumettre à ce que Paul a écrit. C'est ce que Paul est en train de dire à l'Église de Corinthe. Il invite toutes celles et ceux qui aspirent à être ou qui sont aujourd'hui utilisés par Dieu de reconnaître que son enseignement, il vient de la part de Dieu. Que son enseignement, n'est pas une option, mais qu'il est un commandement de Dieu pour vivre les dons spirituels, pour que la croissance et le développement de l'Église puissent se faire. Est-ce qu'il y a une Église ce matin qui aspire à vivre cette vie charismatique qui fait la différence dans la vie des autres ? Il y en a quelques-uns ce matin qui veulent être utilisés par Dieu. Vous savez, Dieu veut nous utiliser. Ce matin, ce message-là, il n'est pas pour nous faire peur. Il est en train de nous dire, mais viens avec humilité. Anita l'a rappelé dans son don spirituel ce matin. Parfois, on cherche à dire, mais Seigneur, comment tu veux m'utiliser ? Puis on cherche des signes dans le ciel, etc. En fait, Dieu nous dit, mais sers juste là où tu es. Et tu vas voir comment l'activité du Saint-Esprit spontané va se manifester. Comment Dieu va se servir de toi pour encourager, pour édifier, pour consoler. Arrêtons de chercher des grands signes dans le ciel. Soyons des disciples de Jésus qui avons reçu tout l'équipement nécessaire par la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins entre ses mains dans notre génération. Dieu veut se servir de nous, mes amis, à être une église qui encourage les autres, à placer leur confiance dans ce Dieu qui fait la différence encore en 2023. De ce Dieu qui se soucie, comme on l'a vu, de chacun d'entre nous dans nos situations particulières. On a un Dieu qui a promis de jamais nous abandonner. Un Dieu qui est avec nous. Peut-être c'est dur ce matin pour toi. C'est dur parce que toutes les circonstances vont complètement à l'envers de ce que tu attendais. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et il t'amènera de l'autre bord. Oui, il y a la tempête. Oui, il faut traverser peut-être ce lac et ce tumulte qui est en train de secouer toute la maison. Mais Dieu te dit, je vais t'emmener de l'autre bord. C'est ce Dieu-là qu'on sert, mes amis. Et il veut se servir de vos bouches, de vos mains et de vos pieds pour être ses témoins en action en 2023. Je sais que je vous saoule avec ça, mais alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir de plus en plus, Dieu cherche des porteurs et des porteuses de lumière, des porteuses de sa vie, ici à Strasbourg, ici en Alsace, ici dans notre nation de France. Est-ce qu'il y a une église qui aspire à vivre les dons ce matin ? Si c'est le cas, je vous invite à vous lever alors qu'on va reprendre un chant. Mais que ça puisse être une prière ce matin, dire « Mais Seigneur, sers-toi de moi, remplis-moi. » Je crois à un Dieu qui veut nous remplir de son esprit. On l'a dit, ce n'est pas juste une expérience, dans une croix dans le calendrier d'un moment de nos vies où on a vécu quelque chose de particulier. Mais Dieu nous appelle à rechercher constamment, à aspirer à être rempli de son esprit. Et je crois qu'il veut déverser encore une fraîche onction ce matin. Une fraîche onction sur chacun d'entre nous. Je crois qu'il veut parler à des gens qui ont peur, qui ont été blessés à cause de faux dons. Ils ont dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. » Et t'as laissé tous ces dons-là enterrés. Mais Dieu te dit ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour réanimer le don que je t'ai donné. Dieu veut souffler sur son église ce matin. Est-ce qu'on peut lever les bras en l'air pour aspirer encore comme un signe au ciel, de dire Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses encore pour cette année. J'ai besoin de faire la différence. J'ai besoin, Seigneur, de voir des hommes et des femmes transformés par la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Oui, Jésus veut changer des vies encore aujourd'hui, nous croyons. Oh Seigneur, viens souffler sur nous ce matin. Viens souffler sur nous ce matin, Seigneur, on ne sera jamais assez rempli de toi. Mais tu nous as donné le privilège d'avoir un accès libre au trône de la grâce ce matin. L'onction, elle est pour tous ce matin. Elle est pour son peuple, pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Viens, Seigneur, et souffle sur nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.
Jésus, ton nom, déclarons-le ensemble.
Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
puissant. Il est au-dessus de tout. Le nom qui libère. Le nom qui restaure.
Puissance, autorité, royaume et dignité.
Déclarons-le encore. Ton nom est grand. Ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom
est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume. Et si tout se soumet au nom de Jésus, est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es,
chantons,
l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Et tout ton peuple crie.
Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint.
Une dernière fois, tout ton peuple crie.
Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint,
Dieu d'éternité.
Tu es saint, à jamais tu es saint.
Est-ce qu'on peut applaudir notre roi des rois? Amen. On est équipé, ok? On est équipé, on doit aller pour exercer. Et justement, on a une semaine de jeûne et prière. Ceux qui sont timides en disant « Ouais, mais je sais pas ce que j'ai reçu, je sais pas si j'ai reçu, je sais pas si... » Un peu comme Tim quand il se posait des questions, venez. Venez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, venez au jeûne et prière. Parce qu'on prendra justement un espace pour exercer les dons de l'esprit, pour grandir ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez qu'on grandisse? Ensemble? Amen. Alors on vous souhaite vraiment une bonne semaine. Allez, vous avez la force de Dieu avec vous. Et à demain soir.